Chapitre 64. Le dernier gardien du butin. 8h05, pont Gustave Flaubert. Les yeux fermés, agenouillés dans la position d'une condamnée, Maline entendit la voix céleste comme une intervention divine.
« Lâchez votre arme, Vorenger! J'ai 10 tireurs d'élite braqués sur vous! Au moindre geste, on vous abat !»
Dieu avait la même voix que le commissaire Gustave Paturel. Maline ouvrit les yeux, ne vit rien.
« Deuxième avertissement, Vorenger! Lâchez votre arme! J'ai 10 tireurs postés sur les silos, juste derrière vous! Vous êtes en plein dans leur ligne de mire !»
Maline repéra enfin d'où venait la voix du commissaire. Il était posté sur les quais de Rouen, face à la cabine de contrôle du pont Flaubert, et s'exprimait dans le haut-parleur d'un véhicule de police.
« Vorenger, nous tenons votre fille. Nous ne bluffons pas, sinon nous ne serions pas là. Lâchez votre arme immédiatement ou je donne l'ordre de vous abattre !»
Maline n'osait pas se retourner. À coup sûr, savoir que sa fille était entre les mains de la police avait dû l'ébranler. Mais Vorenger était assez fou pour plonger sur elle, pour la poignarder dans sa chute, même criblée de balles. La voix du commissaire Paturel tomba comme un couperet.
« Tant pis pour vous, Voren !»
Maline entendit le bruit clair d'un couteau qui tombe sur une dalle de béton. Elle bondit sur ses jambes et se retourna.
« Levez les mains, Vorenger !»
fit à nouveau la voix du commissaire.
« Et approchez-vous de la balustrade !»
Le tueur leva les mains et dévisagea Maline. Il savait que si le commissaire ne bluffait pas, il avait dans son dos, posté sur les silos du port, 10 lunettes de fusil braquées sur lui.
« Il faut vous rendre, Vorenger, » fit Maline d'une voix douce. « Vous n'avez plus rien à gagner maintenant. »
Serge Vorenger afficha un étrange sourire et chuchota presque.
« Vous n'avez rien compris, mademoiselle Abruzzi. Ma vie n'a aucune importance, seul compte le butin. »
Ce secret millénaire nous dépasse tous, dépasse nos petites vies misérables. Je suis le gardien, mademoiselle Abruzzi.
Croyez-vous vraiment que je vais laisser tous ces secrets tomber entre les mains de la police?
Serge Vorenger leva ses mains plus haut encore, comme s'il voulait ostensiblement signifier qu'il se rendait. Il s'éloigna un peu de Maline et brusquement fit un pas de côté et bascula dans le vide. Il n'eut pas un coup de feu. Il n'y eut aucun bruit de corps qui tombe dans l'eau. Maline se précipita sur le rebord du pont Flaubert. Elle fut saisie d'un vertige. Agenouillée, les yeux fermés, elle n'avait pas vu s'approcher l'Amerigo Vespucci. Le gigantesque trois-mâts italien passait à cet instant même sous l'arche du pont Flaubert. Maline eut l'impression que le grand mât arrière allait se briser sur le tablier du pont, tellement il lui sembla proche. Le tirant d'air était calculé au plus juste. Le mât passa à moins de 2 mètres sous le tablier. La vision devant elle était surréaliste. Serge Vorenger n'avait pas renoncé. Comme si son plan était prévu depuis longtemps, il avait sauté du tablier du pont Levant au moment opportun. Pas dans un vide de 55 mètres. Un saut d'à peine 2 mètres, sur la vergue supérieure du mât de misaine de l'Amerigo Vespucci. Serge Vorenger, suspendu à plus de 50 mètres, avait fermement enroulé ses bras autour de la poutre de bois, alors que ses jambes cherchaient à trouver un équilibre en prenant appui sur d'instables cordes du voilage couleur chanvre. L'Amerigo Vespucci continuait sa progression majestueuse sans ralentir, sans visiblement se soucier de ce passager clandestin. Pourtant, sur le somptueux pont de parquet clair du vaisseau italien, les matelots s'agglutinaient, le nez en l'air, stupéfaits. Ils croyaient sans doute avoir affaire à un pari insensé. Serge Vorenger n'allait tout de même pas s'échapper ainsi. Cela n'avait aucun sens. Cette ultime fuite était vouée à l'échec. Qu'espérait-il désormais? Maline fixa le corps en équilibre de Serge Vorenger. Même s'il s'éloignait lentement, il était pratiquement à sa hauteur. Le tueur, dans sa position d'équilibriste, grimaçait terriblement. Maline comprit. Une tache de sang noircissait la manche de sa chemise. La double blessure infligée par Pascas Upanji et par sa propre fille s'était rouverte lors de la réception de son sceau insensé. Maline percevait maintenant nettement les espoirs désespérés de Vorenger pour maintenir sa prise, pour ne pas lâcher, tomber 50 mètres plus bas. Sans aide, il ne pourrait pas tenir ainsi longtemps. Maline observa décontenancée l'agitation sur le pont de l'Amerigo Vespucci. Plusieurs matelots agiles se précipitaient déjà aux échelles de corde. Passé le coup de la surprise, les marins réagissaient. Soudain, un marin italien cria plus fort que les autres. « Criminale !» Une courte cohue régna sur le pont italien. Les marins échangèrent des paroles rapides. Soudain, plus aucun marin ne bougea, mis à part les premiers matelots qui redescendirent des échelles de corde. La nouvelle avait dû courir de navire en navire, plus rapide qu'une traînée de poudre. Le passager clandestin était l'assassin des trois jeunes marins dont ils avaient porté le deuil. L'homme qui avait poignardé trois des leurs. Plus d'une centaine de marins italiens, presque indifférents désormais, les bras ostensiblement croisés, levaient les yeux vers le haut du mât de misaine. Serge Voranger ne prononça pas un mot. Ses jambes sous lui s'agitaient, à la recherche désespérée d'un appui. Il tint encore une minute, mais la douleur sur son visage montrait que l'effort ne serait plus supportable très longtemps. Soudain, son bras valide, le premier, lâcha sa prise. Sa main sembla arracher autour de son cou une sorte de collier. Retenu par son seul bras blessé, Voranger sentit la poutre de bois verni lui échapper. Il fit un dernier effort pour agripper un cordage, mais il tombait trop vite. Son corps se disloqua une première fois en heurtant la vergue médiane, pour tomber ensuite comme une pierre sur l'immaculé pont latté du voilier italien, 50 mètres plus bas, éclaboussant de sang la barre de cuivre et de bois verni. Les plus de 300 marins du vaisseau formèrent rapidement un cercle autour du corps désarticulé. Un officier perça l'attroupement, dispersa les marins, les renvoyant chacun à leur tâche par des ordres qui ne souffraient d'aucune discussion. Il imposa à deux infortunés marins près de lui de porter le corps sans vie dans une cabine funéraire, et à un troisième, pas plus enthousiaste, de nettoyer le pont et la barre de cuivre. Les deux marins italiens déposèrent le corps sans vie sur un lit, dans une cabine inoccupée. Le plus jeune des deux marins, à peine majeur, ne supporta pas plus longtemps la vue de ce corps déchiqueté, ce visage tuméfié, cette poupée molle, aux os brisés, qu'il avait dû porter et dont l'odeur de mort l'imprégnait déjà. Il courut vomir dans les toilettes dès que le cadavre fut jeté sur le lit. Fabrizio Longhini resta seul un instant face au cadavre. Fabrizio venait d'une famille très croyante. Curieusement, il avait envie de faire une courte prière pour cet homme, comme sa mère le lui avait appris, même si on lui avait raconté qu'il s'agissait du tueur de marins. Un monstre. Fabrizio ôta respectueusement son bonnet. Il allait joindre ses mains lorsqu'il remarqua un fait étrange. Le cadavre désarticulé conservait un de ses poings fermés, comme s'il tenait encore un objet précieux au creux de sa main. Il s'avança. Cette vision lui fit penser à la dépouille de sa grand-mère, Federica, qu'il avait veillée toute une nuit lorsqu'il était adolescent. Federica était morte, elle aussi, le poing serré, sur son chapelet. Doucement, avec un courage qui le stupéfia lui-même, Fabrizio écarta un à un les doigts du cadavre. Ce qu'il découvrit aiguisa sa curiosité. Le tueur tenait dans son poing fermé une clé USB, une de celles qui peuvent contenir plusieurs gigas d'informations. Fabrizio prit la clé dans ses mains. Elle était encore chaude de la paume serrée du cadavre. Fabrizio n'éprouva même pas le début d'un dégoût. Il pensait vite. Il connaissait les légendes qui couraient sur les navires. Les quatre matelots poignardés recherchaient un trésor, un butin, caché dans les méandres de la Seine. Leur assassin ne voulait pas qu'ils découvrent la vérité. Beaucoup de marins sur le pont, aujourd'hui, ne croyaient plus à ces légendes. Fabrizio, lui, croyait. Dans les mythes, dans le destin, en sa fortune. Les victimes, comme l'assassin, étaient tous morts, désormais. Tous les témoins étaient disparus. Un bruit d'eau lui indiqua que le jeune cadet allait le rejoindre dans la cabine mortuaire. Fabrizio esquissa un sourire discret. Doucement, son poing se referma sur la petite clé USB.